Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi à la crise écologique et à la réponse politique. L'idée d'un monde d'après aurait-elle fait long feu? Rappelez-vous, c'était il y a un siècle, juste avant l'été, alors que l'on sortait à peine du confinement, rien ne pouvait plus être comme avant, tout serait donc plus écologique. La pandémie, largement imputable à la destruction des espaces et des espèces sauvages, et l'expérience d'un arrêt de l'économie mondiale jusque-là impensable, ouvrait la voie à une transition écologique qui se faisait attendre. Des signaux subsistent encore. Le Parlement européen a voté le 7 octobre un objectif de réduction d'au moins 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici à 2030, plus ambitieux que celui de 55% proposé par la Commission, alors que les États membres ne devraient prendre position qu'en décembre. Le Green New Deal est en marche et la relance économique promet d'être verte. Il faut dire que malgré les engagements, comme l'accord de Paris qui fêtera en décembre ses 5 ans, les prévisions des climatologues restent très alarmistes. Il devient de plus en plus improbable de voir l'augmentation des températures limitée à 2 degrés en moyenne sur la Terre en 2100. Le contraste avec les volontés affichées est saisissant. Les politiques sont-ils impuissants ou voués à trahir leurs paroles? Dans un courrier envoyé lundi 12 octobre au président de la République, les participants à la Convention citoyenne pour le climat s'inquiétaient ainsi des reculs sur la 5G, la taxe aérienne, la fiscalité du rail et demandaient à Emmanuel Macron de réaffirmer son engagement écologique. Tout cela pose évidemment la question du modèle économique, pour le dire simplement. Pourra-t-on réussir la nécessaire et consensuelle transition écologique dans le cadre du modèle économique actuel, que faute de mieux, on qualifiera de capitaliste? Votre transition n'est pas la nôtre, scandaient le 13 octobre les militants d'Extinction Rebellion qui ont momentanément bloqué la rue du ministère de la Transition écologique. Alors, crise écologique, la politique est-elle le problème ou la solution? Une émission que vous pouvez écouter en direct à la fois sur votre poste de radio, franceculture.fr et l'application Radio France, application où vous retrouverez tous les podcasts.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
L'amendement 1463, Commission du développement durable.
Mais mes chers collègues, je dois vous avouer que j'ai un vrai problème avec ces amendements et cette idée et cette proposition. Je sais qu'elle est issue de la Convention citoyenne pour le climat, mais je crois qu'elle a des conséquences sur le pouvoir d'achat d'un certain nombre de nos concitoyens qui n'est pas acceptable. Voilà, je vous le dis tel que je le pense. Par exemple, contribuable célibataire, revenu net imposable, 30 000 euros. Véhicule personnel puissance administrative de 5 chevaux, classique, qui utilise son véhicule pour travailler. Après réforme, cette même personne avec les mêmes revenus, baisse de pouvoir d'achat, c'est-à-dire augmentation d'impôts, hein, ça s'appelle la même chose, 635 euros. Je trouve que c'est pas acceptable.
Je voudrais abonder dans le sens de monsieur le rapporteur. Ça me met hors de moi que la Convention citoyenne composée de personnes sans aucune compétence tirée au sort ont sorti toute une série de propositions qui sortent d'où? Des experts. Qui les a choisis? Qui les a choisis, les experts? Hein, ces pseudo-experts qui ont fait enfiler les perles à cette convention citoyenne, c'est une insulte à la démocratie, c'est une insulte aux représentants du peuple que nous sommes tous ici.
De la difficulté de traduire dans la loi les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, on était dans une commission de l'Assemblée nationale, vous l'aurez peut-être compris, c'était le 7 octobre dernier. Bonsoir Lucille Schmitt.
Bonsoir
Raphaël. Vous êtes essayiste, cofondatrice de la Fabrique écologique, ancienne présidente du Green European Foundation, et vous avez eu un passé aussi, il faut le dire, de militante, d'élu, à la fois d'abord au Parti Socialiste, puis au sein d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Christian de Pertuis.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, vous avez fondé la chaire économie du climat et vous publiez ces jours-ci Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience chez Debuc Supérieur. Et enfin, notre troisième invité autour de la table ce soir, c'est Pierre Charbonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités, le LIER, à l'EHESS. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui est paru, lui, c'était en janvier de cette année, de janvier 2020, juste avant la crise du Covid-19. Abondance et liberté, une histoire droit environnemental des idées politiques. Et c'est à vous que je vais poser la première question, Pierre Charbonnier, puisqu'on va parler ce soir de politique et d'écologie, et de se demander voilà, si la politique est plutôt un frein ou un accélérateur pour permettre cette transition écologique. Mais vous êtes philosophe, il va d'abord falloir faire un petit exercice de définition des termes. Vous abordez cette question de la politique, de repolitiser l'écologie dans votre ouvrage. Quel sens il faut donner à ce terme de politique ?
Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et ce qui peut peut-être aider à en fait, poser les termes du débat, c'est de réfléchir à sur quel type de socle matériel on fait de la politique, et en fait, quel type de politique on fait en fonction du socle matériel qu'on a. C'est pour ça que j'ai essayé de montrer dans ce livre, et c'est pour ça aussi qu'il fallait une focale temporelle assez longue, j'ai essayé de montrer qu'en successivement, on a produit en fait, des normes politiques, des normes de coexistence sociale, sur des bases qui étaient d'abord essentiellement organiques, agricoles. Puis on a en quelque sorte réinventé notre univers normatif sur des bases industrielles, avec la propulsion massive que rend possible l'accès à de nouvelles énergies, notamment des énergies fossiles. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En fait, un tremblement de terre politique d'une magnitude au moins égale, voire supérieure à ces transitions du passé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la planète dans laquelle on vit n'est plus du tout la même que celle dans laquelle on a vécu jusqu'à présent, que les impératifs de production, de développement s'accompagnent d'effets boomerang qui sont proprement catastrophiques, intenables, non soutenables. Et donc, on est devant la tâche tout de même un petit peu, pour certains effrayante, pour d'autres excitante, en tout cas gigantesque, de réinventer l'univers normatif dans lequel on vit. Donc c'est pour ça que c'est à la fois très compliqué et ça suscite des débats, des clivages qui sont fondamentaux. C'est que quand on se rend compte qu'on est en train de cuire dans une planète qui est en fait trop petite et trop fragile pour supporter des formes de développement qui compromettent l'équilibre du climat, tout tombe avec, en fait. Des repères juridiques, des repères, on peut dire, philosophiques et moraux ou éthiques, et donc des formes d'organisation. Et se protéger, parce que c'est une des missions fondamentales de la politique et des représentants politiques, protéger le collectif, ne peut plus prendre tout à fait la même signification que ce terme avait eu jusqu'à présent. Donc c'est ça. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que ça a l'air d'être un truc tellement énorme qu'on peut pas y faire face. Et pourtant, je pense pas qu'on ait le choix.
On n'a pas le choix, selon vous, Pierre Charbonnier. C'est donc une définition de la politique au sens, je dirais, assez large, puisque vous posez à la fois la question de la liberté et du lien qu'il y avait entre liberté et abondance, recherche de liberté et développement, en quelque sorte, développement économique, pour le dire assez rapidement. Lucille Schmid, cette question de la politique, comment la traduire dans le politique, celle qu'on vient d'entendre là, en introduction de cette émission, même si, bon, voilà, c'était un exemple un peu caricatural, évidemment, qu'on a pris pour commencer.
Non, ce qui est intéressant, et pour faire le lien entre le monde qu'on a entendu au départ et celui que vient d'évoquer Pierre Charbonnier, on s'aperçoit qu'il y a déjà un énorme gap. C'est qu'on voit que l'écologie politique a trait d'abord à retracer une histoire, et retracer une histoire des normes, comme l'a dit Pierre Charbonnier, et retracer une histoire des concepts et de la façon dont, et de leurs modalités pratiques. Et là, vous nous avez passé en ouverture, cher Raphaël Bourgois, une discussion qui donne le sentiment presque d'une bataille de chiffonniers avec ça n'a rien à voir avec l'univers normatif. C'est plutôt une discussion sur le fait de dire mais nous, on est les démocrates, nous, on représente la démocratie et on a confié à des citoyens qui ne sont pas des experts et qui ont été manipulés, au fond, une responsabilité qui les dépasse. Donc il y a une remise en cause de la Convention citoyenne dans ce que vous nous avez passé. Il y a une remise en cause plus largement du rôle du citoyen par rapport à son représentant. Et il y a aussi, dans ce petit extrait assez saisissant, l'idée qu'on va faire le malheur du peuple, c'est-à-dire qu'on va aussi, au fond, de manière totalement irresponsable, réduire le revenu disponible de quelqu'un qui, en fait, a peu de revenus par rapport à ceux qui nous gouvernent. Donc, d'une certaine manière, la Convention citoyenne est accusée, en plus de creuser les inégalités sociales. Donc, on voit bien que la difficulté, en fait, sur l'écologie politique, c'est de passer de l'histoire, du fait de revisiter notre histoire, du conceptuel à la mise en pratique, et aussi de la théorie ou de la volonté de bien faire, j'allais dire, parce que je ne vois pas en quoi je ne pense pas que les citoyens de la Convention citoyenne voulaient créer des inégalités sociales. Je crois qu'ils avaient même en tête de faire l'inverse. Et je vois que le reproche qui leur est adressé, au fond, c'est d'avoir trahi et ceux qui ont créé la Convention citoyenne d'avoir trahi la vocation qui est de faire mieux l'écologie. Donc on voit bien que la discussion aujourd'hui, le débat sur la politique et l'écologie, c'est un débat sur la mise en pratique. Et en quoi est-ce que vous n'allez pas créer des effets plus pervers que la situation dans laquelle nous nous trouvons déjà, qui est une situation de fortes inégalités, une situation où il y a crise économique, une situation où il y a pandémie. Et donc, au fond, votre discussion de député, c'est, écoutez, est-ce que c'est vraiment le moment de faire de l'écologie? Et ça, moi, évidemment, je m'inscris totalement au faux contre cette espèce de café du commerce à l'Assemblée nationale. Je crois qu'évidemment, il y a un cap à tenir qui est un cap écologique. Après, la question reste ouverte des modalités pratiques pour bien faire.
Alors Christian de Pertuis, vous connaissez bien la question, vous avez beaucoup travaillé notamment sur la taxe carbone et qui se traduit dans le débat politique par l'écologie punitive, comme vous le savez, on vient de l'entendre, la discussion autour de l'écologie punitive, non mais on vient d'entendre un exemple évidemment d'échange, mais qui s'intéressait aussi, alors il s'agissait évidemment d'une forme de remise en cause d'une nouvelle forme de démocratie participative qui était la Convention citoyenne, mais aussi de s'interroger sur la traduction et sur qui doit porter la question de cette transition écologique. Donc, quand on parle de politique, d'application politique de l'écologie, les politiques économiques sont évidemment aussi au centre de la question.
Moi, je pense que la question climatique et plus généralement la question environnementale, pour nous économistes, remet évidemment en cause la question de l'équilibre entre le marché et l'intervention publique sur les marchés. Une vision un peu classique des économistes consistait à dire, si vous avez des externalités environnementales, on va tarifer ces externalités, les mettre dans le marché, et ça va effectivement corriger ces imperfections du marché. Je pense que ce raisonnement reste valable dans certains cas, mais on voit bien que la crise écologique dépasse ce simple constat des externalités environnementales et qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que, en réalité, ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est le fait que le modèle économique ne fonctionne plus à l'intérieur de ce qu'on appelle les limites planétaires, que sont les grands systèmes de régulation naturelle à l'intérieur desquels nous vivons. Le système climatique est probablement celui qui doit être réparé avec la plus grande urgence. Mais nous voyons bien que derrière la question du climat, nous avons la question de la perte de la biodiversité, tout le rapport de nos sociétés au vivant. Et je pense que ce sont ces grandes questions qui sont véritablement pour l'économiste aujourd'hui. Ce qu'il me semble, c'est que le politique, évidemment, a un rôle majeur à jouer, mais il y a des évolutions majeures en termes de coûts et de coûts relatifs, notamment dans le système énergétique, entre le coût des énergies fossiles et le coût des énergies renouvelables. Depuis un siècle et demi, les fossiles ont toujours gagné la bataille. Le débat sur le véhicule électrique, il date pas de la discussion à l'Assemblée nationale. Dans les années 1910, on savait pas si la voiture allait être électrique ou pas. Et donc, pendant un siècle et demi, nous avons vécu dans des systèmes économiques qui ont empilé les sources d'énergie fossiles, qui ont toujours gagné les batailles. Et je crois que depuis une dizaine d'années, le paysage économique est en train de changer et que, pour des tas de raisons, qui ne sont pas uniquement des raisons techniques, nous sommes à un point de bascule incroyable sur le système énergétique, car les sources d'énergie renouvelable deviennent compétitives relativement aux sources fossiles.
Alors ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais rester un instant sur ce premier temps de l'émission, si vous le voulez bien, sur la question politique, parce que vous avez dit à un moment dans votre première intervention, Pierre Charbonnier, voilà, ça peut paraître massif, ça peut paraître effrayant pour certains, excitant pour d'autres, mais est-ce que face à ces objets aussi massifs, là on l'entend dans vos interventions des uns et des autres, les politiques, les femmes et les hommes politiques qui nous représentent ne sont pas voués à l'échec en quelque sorte, voués finalement soit à se dédire, soit à avoir l'air impuissant. Comment faire en quelque sorte pour repolitiser cette question comme vous nous y invitez, Pierre Charbonnier, sans aggraver la perte de confiance, la défiance même qui existe aujourd'hui, on va dire, entre les citoyens et leurs représentants politiques. Voilà, parce qu'ils vont se dire, les citoyens, comme par exemple les citoyens de la Convention citoyenne très récemment encore, vous trahissez votre parole, vous trahissez les propositions que nous vous faisons.
Je pense qu'il y a deux aspects, en fait, dans cette politisation de l'écologie. D'un côté, si on dit faire de la politique, c'est en fait l'art du bon gouvernement. Alors d'abord, il y a un ensemble de missions qui s'ouvrent, c'est-à-dire accepter l'impératif climatique et écologique, c'est-à-dire sortir de la logique qui consiste à instrumentaliser la question sociale pour dire il faut continuer à produire, il faut continuer à faire de la croissance, sinon on va pénaliser, on va accroître les inégalités. Il faut dire non, en fait, le problème ne se pose pas sous cette forme-là. Le problème, il se pose sous une forme, on peut dire, de menace existentielle. Donc il y a un impératif et réfléchissons à ce qu'on fait pour éviter vraiment le gros astéroïde, sachant que de toute façon, l'astéroïde petit et moyen, c'est sûr qu'on le prend. Okay, donc, il faut réorganiser le cycle économique pour qu'il se réajuste dans les cycles écologiques. Et ça, l'énigme, c'est que on sait le faire. Vous voyez ce que je veux dire?
Quel exemple vous avez?
Il n'y a aucun problème pour engager une transition rapide des systèmes énergétiques pour qu'ils soient décarbonés. Mais le problème est qu'il y a une inertie des infrastructures juridiques et institutionnelles qui fait que ces savoir-faire-là, des savoir-faire d'ingénieurs, de techniciens, sont considérés comme étant irréalisables, pas du tout pour des raisons pratiques, pas du tout pour des raisons techniques, et même pas pour des raisons de volonté, mais pour des raisons de barrages institutionnels et juridiques qui sont complètement incorporés par quand même une partie massive des élites dirigeantes. Et puis l'autre aspect de ce que c'est que faire de la politique, c'est l'aspect, on peut dire, pour le coup, plus un petit peu plus martial, plus clivant, c'est-à-dire il y a des amis, il y a des ennemis, il faut désigner les ennemis, et il faut, faut pas trop multiplier les métaphores guerrières, mais en tout cas, il faut les traiter comme tels, disons. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des rapports de pouvoir qui visent à l'élimination de certains intérêts. Et ça, c'est de la politique comme les écologistes n'en ont jamais fait, en réalité. Parce que ce dans quoi ça vient s'incruster, c'est l'équation fondamentale de déséquilibre géopolitique depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est que les équilibres géopolitiques sont des équilibres de pouvoir, et que pour avoir du pouvoir, il faut de l'énergie, il faut de la technique, il faut une grosse masse. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est réduire la masse, mais le faire en étant capable de taper du poing sur la table. Et c'est là que c'est très compliqué, et là, malheureusement, ça, c'est de la grande politique, quoi.
Lucie Schmid.
Oui, moi, je trouve que les pistes qu'esquisse Pierre Charbonnier sont passionnantes, j'allais dire. Moi, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que la solution technique. C'est-à-dire qu'effectivement, on connaît bien, par exemple sur le plan énergétique, on sait maintenant beaucoup mieux faire du renouvelable, et Christian Pertuis en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais il y a un sujet d'allocation des ressources. C'est-à-dire qu'il faut, dans ce cas, choisir d'investir différemment de ce qu'on a fait depuis toujours. Comme j'ai deux personnes qui ont évoqué l'histoire, je ne vais pas dire depuis toujours, mais en tout cas depuis fort longtemps. Et donc, il y a un sujet d'investissement et un sujet d'allocation du capital, et c'est là que l'économie entre en ligne de compte. Il y a une deuxième difficulté qui est importante et qui est souvent traduite comme une question sociale, mais qu'au fond, l'allocation du revenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que c'est si compliqué de faire la transformation de nos politiques agricoles? Parce qu'on a subventionné très profondément l'agriculture productive, l'agriculture dite conventionnelle, et que s'il s'agit de réallouer les ressources et de faire autrement les investissements, évidemment, on va priver de revenus un certain nombre d'agriculteurs, et tout le monde n'est pas... betteravier, tout le monde n'est pas céréalier dans la Beauce, et donc il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont aujourd'hui dans des situations dramatiques sur le plan de leurs revenus et qui sont totalement dépendants de leurs banques, voilà, etc. Donc il y a un vrai sujet d'investissement, de réallocation du capital et des revenus. La deuxième chose qui me semble importante, et c'est essentiel, et ça revient à ce que vous avez mis en ouverture, c'est la sociologie des élites, c'est-à-dire que aujourd'hui l'écologie et tout ce qui relève de l'écologie, c'est quand même un monde extraordinairement complexe et sur lequel, je dirais, la culture de ceux qui font de la politique, des politiciens, des élus, de ceux qui les entourent, c'est étranger à une grande partie de leur culture. On voit que d'ailleurs, au sein de La République En Marche, ceux qui aujourd'hui ont quitté La République En Marche pour fonder un groupe plus écologique, sont souvent des personnes qui avaient eu des parcours professionnels ou une culture assez différente de celle du politicien traditionnel. Donc cet enjeu de sociologie des élites, il est posé. Et ça signifie, par exemple, que je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut que des députés ou que des élus écolo-intello. Mais je pense qu'en tout cas, l'attention à la complexité, l'attention à la lecture, l'attention à la profondeur fera partie de la culture de ceux qui veulent faire de la politique de manière beaucoup plus importante qu'avant. Et puis, troisième point, pour ne pas être trop longue, le sujet des alliances. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui mener la transformation écologique uniquement si on interpelle comme Greta Thunberg, si on fait des marches Fridays for Future, ou si au sein de l'entreprise on dépose son vélo à l'entrée pour ensuite aller négocier avec le PDG. Le sujet, c'est quelles alliances peut-on trouver entre ceux qui aujourd'hui ont envie de porter cette transformation écologique. Et vous disiez qu'Extinction Rébellion, en faisant un sitting devant le ministère de la Transition écologique, vous avez dit notre transition, votre transition n'est pas la nôtre ou notre transition n'est pas la vôtre. Voilà. Et ça, le sujet qui est devant nous, c'est un sujet de notre transition à nous tous. Quelle est-elle? Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit clair, ce qui permet au fond à chacun de dire mais la mienne est meilleure que la tienne ou la tienne n'est pas la mienne et qui n'aide pas évidemment à élaborer un projet de société commun.
Ah, puisqu'on parlait d'Extinction Rébellion, je vous propose d'écouter ces militants. C'était donc en début de semaine devant le ministère de la Transition écologique.
Malgré le contexte, on a décidé nous de se mettre en danger pour venir vraiment alerter sur cette crise climatique qui n'arrête pas et sur ce gouvernement qui est coupable et complice de tout ce qui se passe par rapport à ça, qui a décidé de ne rien faire pour endiguer la catastrophe et qui continue de faire comme si rien n'était au nom du sacro-saint profit.
Moi, personnellement, j'ai déjà tout essayé, les manifestations pacifiques, non violentes, tout ça, ça marche pas. Donc là, c'est la désobéissance civile, on bloque parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire.
Le gouvernement ne fait rien, donc... Voilà, on essaie de faire passer le message comme quoi c'est très urgent et qu'on est prêt à se mettre par terre pour le faire.
On compte rester 3 jours, on compte organiser des débats, des prises de parole, des assemblées populaires pour vraiment permettre aux gens de nous rejoindre et de se rassembler pour discuter de ce sujet.
Voilà, les militants d'Extinction Rébellion, Christian de Pertuis, les gouvernements ne font rien, la dimension agonistique, hein, la dimension de combat que vous appeliez de vos voeux, Pierre Charbonnier, elle est bien là quand même dans ces déclarations qu'on vient d'entendre. Mais pourtant, je le disais en introduction, le Parlement européen, par exemple, a voté le 7 octobre qu'un objectif de réduction d'au moins 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Le Green New Deal doit consacrer une partie très importante du plan de relance de plusieurs centaines de milliards d'euros à des investissements écologiques. Donc, où est la vérité? Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous le dire, Christian de Pertuis, mais entre les deux, peut-être.
Ne demandez pas à l'économiste de vous dire la vérité.
Non, vous avez raison, c'était une erreur.
C'est peut-être pas la bonne façon de me poser dans le débat. Moi, je reviendrai sur ce qui a été dit sur l'allocation des actifs et des investissements. Je pense que, en réalité, la grande difficulté qui est devant nous, ça va plutôt être de désinvestir. C'est-à-dire que notre système économique sait assez bien investir quand on lui donne les bonnes incitations. Mais en revanche, il ne sait pas désinvestir et il ne sait pas reconvertir. Or, on se trouve avec une somme d'actifs, hein, des actifs physiques, des actifs immatériels, des actifs humains, qu'il faut reconvertir. Et ça, c'est très difficile. Je pense que le monde politique est un peu en décalage hein, par rapport à ce qui se passe sur l'écologie, et y compris ce qui se passe dans les entreprises, car on voit bien que ça a été très, très bien dit par Lucille, hein, une espèce de décalage quasi sociologique. Bon, moi, je connais moins bien que vous hein, la composition un peu des gens qui nous dirigent, mais on voit bien qu'il y a une espèce de décalage incroyable, hein, et que parfois on a l'impression que ça va plus vite hein, dans le monde économique que dans le monde politique. Bon, je crois que ce qui est devant nous aujourd'hui, ça va être effectivement des chemins qui sont pas complètement tracés. Il va y avoir plein de contradictions, plein d'intérêts contradictoires. Et je crois que ce qui va être le plus difficile sous l'angle des politiques publiques, sous l'angle économique, ça va être justement les questions de répartition, de distribution. Ça va être les questions de répartition-distribution, parce que dans le côté protecteur hein, du politique, il y a cette question, et c'est là où je trouve que l'écologie politique rejaillit énormément, c'est que la question écologique rejoint la question sociale. Bon, ça me paraît évident. C'est vrai à l'intérieur de l'Europe, on va dire, et... Bon, moi, j'ai plutôt plus fréquenté les pouvoirs publics et les élus européens que nationaux, et souvent, je les trouve plutôt moins en décalage hein, au niveau européen qu'au niveau français, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Bon, et c'est vrai, évidemment, au niveau international, parce que la transition bas carbone et la bataille contre le climat, évidemment, ce qu'on fait est important, mais ce qui se passe en Amérique du Nord et en Asie est totalement déterminant.
Faisons une parenthèse d'ailleurs à ce sujet, Pierre Charbonnier, parce que vous avez publié récemment un article sur la transition écologique voulue par la Chine. Xi Jinping a fait une annonce récemment comme quoi il allait verdir l'économie chinoise, verdir les routes de la soie aussi. Voilà, on a une prise de position. Et on a, alors ça vous fait rire les uns et les autres, mais malgré tout, vous soulignez le fait, Pierre Charbonnier, que pour une fois, ou en tout cas on arrive à un moment où les enjeux de pouvoir, les enjeux de pouvoir sur la scène internationale, les enjeux de géopolitique passent aussi par cette capacité à annoncer, alors à faire, on verra peut-être à plus tard, mais au moins à annoncer des ambitions fortes en matière écologique. Donc ça montre que la politique et la politique étrangère peuvent aussi avoir un poids là-dessus.
Oui, c'est crucial. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on s'était tout à fait habitué à l'idée que des rapports de pouvoir supranationaux se jouent sur des enjeux énergétiques, parce que c'était évident avec le pétrole, qui impliquait des guerres, de l'assistance technique internationale, des grands réseaux de distribution. On voyait très bien comment le pétrole, en fait, structurait la géopolitique, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement à être étonné du fait que, en fait, la désescalade d'une économie fossile pour le développement d'une économie de renouvelables, incluant dans le cas de la Chine et probablement aussi pour l'Europe le nucléaire, est tout autant une question de puissance. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut arrêter avec l'idée que l'écologie, c'est la grande pacification, le grand atterrissage dans quelque chose de commun, sans aspérité, pas du tout. Donc, quand la Chine dit nous, on va réellement implémenter l'accord de Paris et on va passer le pic vers 2030 et atteindre neutralité carbone idéalement avant 2060. En fait, ils font ce qu'on appelle parfois un power move. Ils font pas un retrait, en fait. Ils sont en train d'inventer un modèle de développement bas carbone, voire zéro carbone. L'Europe réagit surenchérie en disant nous aussi, on va le faire, mais en plus, on va le faire sans mettre les Ouïghours dans des camps. Et donc là, on plaisante plus. Là, on est dans le business. Pourquoi on est dans le business? Pour une raison tout simple. C'est qu'il y a un troisième acteur, un troisième grand pôle de puissance qui est en train de faire n'importe quoi.
Donc les États-Unis.
Et donc évidemment, tout le monde cherche à les prendre de vitesse. Et là, en fait, l'écologie commence, en fait, là.
Mais alors, est-ce qu'il faut voir là quelque chose de positif, Lucie Schmid, dans le sens où ça ferait avancer la cause, en quelque sorte, ou est-ce qu'il faut malgré tout regarder cela avec aussi un petit peu de circonspection et de recul, en se disant, est-ce qu'on ne va pas reproduire aussi des schémas, des erreurs qui nous ont menés, même si c'est au nom de l'écologie, qui ont pu nous mener là où on en est aujourd'hui?
Non, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a un rapport de puissance. Et ce rapport de puissance existait déjà d'ailleurs en 2015 lorsque l'accord universel sur les questions climatiques a été signé à Paris-le-Bourget. Il y avait un livre très intéressant qui a été « Gouverner le climat » écrit par Ami Dahan et Stéphane Écoute qui expliquait que d'une certaine manière, même si l'accord serait universel, il ne pourrait pas être tenu parce qu'ensuite il y aurait le sujet de revenir aux politiques intérieures. Donc il y a ce sujet des échelles qui étaient déjà posées. Et comme c'était universel et que chacun l'entendait à sa manière, on n'avait pas vu les rapports de puissance dont parle Pierre Charbonnier. Ceci dit, je me rappelle quand même qu'en 2015, les États-Unis et la Chine, main dans la main, avaient dit qu'ils allaient prendre le leadership. Certes, ça s'est passé à Paris, mais il y avait déjà eu une forme de bilatéralisme des grandes puissances. Donc aujourd'hui, il y a une course, effectivement, d'autant plus que Donald Trump donc, a retiré les États-Unis de l'accord climatique. L'Europe a sa partition à jouer. Et ce qui est très intéressant, vous évoquiez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Je rappelle qu'elle a été très mal élue par le Parlement européen et qu'elle n'a dû son élection qu'au fait d'avoir mis le Green New Deal en avant. Premièrement, donc elle doit tout, d'une certaine manière, à l'écologie au sens du Green New Deal. Deuxièmement, et le Green New Deal est aussi un enjeu aux États-Unis, c'est une expression qui est comprise au niveau mondial. Deuxièmement, elle en a fait le fond de la relance du projet européen mal en point par rapport à la relation avec les citoyens. Donc elle a articulé écologie et démocratie au niveau européen. Et troisièmement, elle en fait un enjeu, et là-dessus la question des normes qu'évoquait Pierre Charbonnier au début ressurgit, elle en fait un enjeu de relecture de l'ensemble des politiques européennes, avec l'idée qu'il y aura maintenant un critère de révision de ces politiques en fonction de leur impact négatif ou positif sur le climat. Alors je voudrais quand même dire une chose, c'est que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de décarbonation, d'économie décarbonée, et qu'évidemment l'écologie ne se réduit pas, et l'écologie politique ne se réduit pas à la décarbonation, à la question des énergies, etc. Christian de Pertuis a évoqué par exemple les enjeux de biodiversité qui sont apparus après les enjeux climatiques. Et aujourd'hui, on sait très bien par exemple que la montée en puissance des renouvelables peut être contestée au motif du paysage, de l'aménagement du territoire, du fait qu'on va ainsi éliminer les oiseaux, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, entre en tension des objectifs sur l'écologie qui ne sont pas forcément aujourd'hui toujours compatibles mécaniquement. Et donc tout l'enjeu pour l'écologie politique, c'est d'arriver à arrimer ces différentes, enfin je ne sais pas si vous dire arrimer, mais en tout cas que les différentes pièces du puzzle écologique puissent fonctionner et qu'on trouve aussi un langage, si vous voulez, qui ne soit pas de société décarbonée, société post-COP 21, etc. Parce que le projet de société, il faut qu'il soit compréhensible par tous. Il faut que ce soit un projet de société qui apporte un mieux-être pour tous. Et d'abord pour ceux qui aujourd'hui sont dans le mal-être, j'allais dire, pour tous et surtout pour ceux auxquels on doit aujourd'hui de la solidarité et de la justice. Et c'est pour cette raison que nous devons aussi envisager l'écologie dans l'ensemble de ses facettes et pas seulement d'une manière trop technique ou trop savante, et pas en tout cas qui vienne d'en haut comme la taxe carbone qui était tombée du ciel sur les gilets jaunes.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
France Culture, le temps du débat du samedi avec cette question ce soir, crise écologique, la politique est-elle le problème ou la solution? On en discute avec nos trois invités, Lucille Schmitt qui est essayiste et cofondatrice de la Fabrique écologique, Christian de Pertuis, économiste à Paris Dauphine et le philosophe Pierre Charbonnier. Alors, je suis désolé, j'ai lancé ce qu'on appelle la virgule un peu trop rapidement, Christian de Pertuis, puisque je dois rappeler que vous êtes l'un des penseurs, inventeurs, je ne sais pas comment le dire, de la taxe carbone. En tout cas, vous y avez consacré beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, forcément, l'attaque de Lucille Schmitt contre la taxe carbone qui est tombée sur la tête comme la misère sur le clergé des gilets jaunes, ça vous a fait réagir. Alors, je vous donne un droit de réponse tout de suite.
Non, mais c'était juste pour rappeler que dans les propos que j'avais faites sur la taxe carbone, il y avait des propositions qui concernaient le niveau de la taxe carbone, il y avait des propositions qui concernaient la redistribution de la taxe carbone, et que, évidemment, une taxe carbone non redistribuée est injuste socialement, et qu'une taxe carbone redistribuée peut parfaitement surcompenser le surcoût pour les classes les moins favorisées. Je voulais revenir sur l'aspect géopolitique international, parce que je crois que c'est très important. Les annonces qui ont été faites par la Chine, effectivement, ne sont pas anodines. Mais moi, je rattacherais ça quand même à la crise du Covid et à ce qui s'est passé depuis le début de l'année, parce que je pense que la chute des émissions, la mise à l'arrêt des émissions qui a eu lieu pendant le confinement...
Que vous avez pu mesurer d'ailleurs votre laboratoire,
qui n'est pas anodine, puisque en gros on va être dans des baisses d'émissions sur l'année. L'année n'est pas encore terminée, mais on va être dans des choses qui n'ont jamais été vues, entre 8 à 10%. Mais moi tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'implication directe c'est augmenter l'ambition des politiques climatiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? En Europe, on est en train de passer d'un objectif de moins 40 à moins 55, voire moins 60. C'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin. Quand vous regardez ce qu'il faut faire pour atteindre moins 40% en 2030, la réponse c'est en gros rien. C'est un objectif qui n'est plus contraignant. Moins 50, a fortiori moins 60, ça c'est une autre paire de manches. Ce qui se passe en Chine me paraît très important et ça s'inscrit dans une nouvelle géopolitique de l'énergie. Et moi, je voudrais dire quand même que ce développement des énergies renouvelables va poser les questions des enjeux géopolitiques de l'énergie très différemment. On a tous en tête la question de l'accès aux métaux qui servent à fabriquer les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, avec parfois des idées un peu fausses, par exemple l'idée que les métaux rares sont, les terres rares sont rares. En fait, les terres rares sont abondantes. Ce qui est rare, c'est le
la teneur en minerais de ces terres. Mais il y a un autre volet très important, c'est les réseaux énergétiques. Parce que de tout temps, la géopolitique, ça a été le contrôle des réseaux énergétiques. Et là, la Chine a effectivement des stratégies extrêmement importantes, de doubler la route de la soie par des réseaux électriques, y compris jusqu'au Sahara, pour faire et le premier opérateur de transport de l'électricité au monde, c'est un opérateur chinois. Donc ce point est très important. Et le réseau décentralisé est également un enjeu très important, car là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve ce que j'appelle l'économie virale, l'économie numérique. Et il va y avoir une bataille sur le contrôle des systèmes décentralisés qui risquent de ne pas du tout être des systèmes décentralisés pilotés et gérés par les citoyens en fonction de leurs besoins, mais d'être des systèmes pilotés avec tout le savoir-faire, notamment des grandes compagnies qui sont dans le numérique, si vous voulez. Donc je crois que cet enjeu stratégique sur le renouvelable est très important. Je dis un mot, si vous me permettez, sur les États-Unis. Je partage évidemment le diagnostic de Pierre sur le fait que le pouvoir fédéral aux États-Unis fait n'importe quoi, mais ce pouvoir est totalement incapable de modifier quoi que ce soit dans la transition énergétique aux États-Unis. Trump a été élu sur un programme de relance du charbon, il a rien lancé en matière de charbon, et nous voyons que le pic des émissions de CO2 aux États-Unis, c'est 2007, et que Trump en réalité glose beaucoup, mais ne peut pas aller contre ses forces extrêmement fortes sur la transition énergétique.
Alors à ce moment-là de notre conversation, au bout de 35 minutes d'émission à peu près, j'ai l'impression que la réponse à la question que j'ai voulu poser au début est toute trouvée. La politique est-elle un obstacle ou pas à la transition écologique? J'ai l'impression de dire que la question c'est plutôt quelle politique? Et donc non, il faut faire de la politique, Pierre Charbonnier. D'ailleurs, c'est ce à quoi vous nous invitez dans votre ouvrage. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment, allons un peu plus loin, puisque c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire de Covid-19 et de pandémie, et qui nous aurait fait passer dans un monde d'après, dans un autre monde. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement c'est aussi un monde dans lequel on ne pourra plus faire de la politique comme avant? Est-ce que vous avez l'espoir que ça nous fasse avancer cette situation? Autant tirer quelque chose de bon.
Pour l'instant, à l'heure où on parle, j'ai pas grand espoir. L'actualité incite plutôt à être pessimiste, surtout pour le cas national. Mais peut-être a-t-on eu l'opportunité d'apprendre une chose toute simple, c'est que, au fond, l'économie, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au fond, l'économie, elle existe s'il n'y a pas l'économie dans sa définition orthodoxe. Disons, ça existe s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de grand mouvement social, s'il n'y a pas de pandémie. C'est-à-dire, en fait, il faut quand même qu'un certain nombre de conditions auxquelles on s'était habitué, parce que depuis 1945, on a l'impression qu'elles vont d'elles-mêmes, alors que pas du tout. Donc là, on doit suspendre l'économie pour sauver nos vies, ce qui montre bien que l'économie, c'est une absurdité. Je pense que c'est évident, si on pose la question comme ça. Donc ce qu'il nous faut, c'est inventer des manières c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, de mettre au point des cycles matériels avec une architecture institutionnelle qui permet de les gouverner, de les rendre justes, qui soient pas totalement en porte-à-faux par rapport à des demandes de justice et puis à un ensemble de contraintes matérielles qui nous touchent. Donc ça, on voit bien qu'en fait on est quand même très démunis pour le faire, puisque précisément, qu'est-ce qui se passe là en ces jours-ci? On refuse en fait de freiner l'économie parce que sinon on a trop peur en fait du contre-coup social. Alors que, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une entité métaphysique qui s'appelle l'économie qui nous encombre totalement. Alors, il n'y a pas grand monde.
Il y a des réalités matérielles, Pierre Charbonnier, quand vous parlez. Non, mais si on... je veux dire, il y a quand même.
Non, mais le fait de coder.
Des mesures, par exemple.
Le fait de coder. En fait, l'activité productive, les échanges, la satisfaction des besoins, y compris des besoins non naturels, le fait de le coder comme l'économie, avec ses lois, et ses lois qui sont tellement infrangibles qu'on ne peut pas les déplacer, même pour sauver des vies, ou en tout cas, on a du mal à le faire. On voit bien que là, on est entre le marteau et l'enclume, quoi. Et c'est en petit, si on peut dire, le même problème qui se pose avec l'enjeu climatique et écologique.
C'est avant de vous redonner la parole, Lucille, quand même un autre droit de réponse de l'économiste qui ont dit qu'il n'existait pas, que l'économie n'existait pas. Non mais c'est bien, il faut un peu de débat.
Je trouve quand même cette émission extrêmement dure pour ma personne, si vous voulez, merci Pierre. Bon, évidemment, je pense
mais
que
si Pierre... l'économie existait, il n'y aurait pas d'économiste. Vous voyez ce que je veux dire, il faut des gens pour la faire exister.
Oui, j'ai bien compris que je serais au chômage. Mais non, je pense que ce que veut dire Pierre, c'est que une certaine forme d'économie de marché est totalement déconnectée de la réalité institutionnelle. La crise du Covid a montré combien des formes classiques d'intervention publique étaient dépassées. Et par exemple, on est passé à travers des tabous en matière de politique monétaire. Donc ça montre bien que l'économie existe, puisque par construction, l'économie permet d'essayer d'organiser au mieux les échanges de biens et services et permettra demain, si elle évolue bien, d'organiser ces échanges de biens et services en respectant un certain nombre de cycles naturels et en s'intégrant dans ces cycles naturels plutôt qu'en détruisant ces cycles naturels. C'est ça tout l'enjeu, notamment sur la partie agricole que Lucille a évoqué tout à l'heure, où je crois que les enjeux sont infiniment plus complexes que sur le système énergétique. Moi, je dirais que sur le système énergétique, Pierre l'a dit du reste d'une certaine façon au début, la messe est déjà dite. On sait comment il faut faire, on sait comment il faut accélérer en taxant les énergies fossiles pour renchérir leurs coûts d'utilisation ou en les interdisant.
Bon. Si José, je poserai la question du nucléaire, mais on est trop proche de la fin de l'émission.
Le système est assez simple. Il y a trois sources fossiles qu'il faut sortir. Sur la biodiversité, c'est infiniment plus compliqué.
Je sais.
Parce que c'est notre rapport au vivant. Et donc, là, l'économiste est totalement démuni sur la biodiversité. Alors que sur l'énergie, on sait à peu près
ce qu'il faut faire, Lucie Schmid. On a beaucoup parlé d'économie, beaucoup plus que ce que je ne pensais dans cette émission, qui normalement était consacrée. Bah oui, mais que voulez-vous? Je me suis dit, on va prendre au moins un économiste, ce qui montre bien le lien qu'il faut faire toujours entre politique et économie. Mais juste pour parler des conditions politiques dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, dans cette situation de pandémie, on s'interroge justement sur à quel point on pourrait faire le lien entre les réponses politiques qui ont été apportées à la pandémie de Covid-19 et les réponses politiques qui pourraient être apporter dans l'avenir à la transition, pour la transition écologique. On se dit, est-ce que l'énergie, la volonté, le volontarisme qu'on a été capable de mettre pour sauver des vies immédiatement face à la pandémie de Covid-19, eh ben on pourrait la retranscrire sur la question écologique pour dire très simplement, voilà, des mesures telles que le confinement, telles que le couvre-feu. Il ne s'agit pas de dire que ce serait exactement les mêmes mesures, mais de cette ampleur-là en matière de modification dans les libertés publiques, etc. Est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui est envisageable?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous mélangez un petit peu dans votre proposition le fait de restreindre les libertés publiques et le fait de changer complètement le cap de la politique économique. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'évidemment, changer le cap de la politique économique, et ce qui a été assez passionnant, je ne sais pas si l'économie n'existe pas, mais en tout cas, le discours économique tenu par les responsables politiques est un discours qui peut changer, qui peut faire un virage à 180 degrés. Et il l'assume. De la même manière qu'il l'assume sur le Covid, on voit que la possibilité de tenir des discours politiques avec des virages à 180 degrés est devenue notre lot quotidien. Donc ça, c'est un point essentiel qui veut dire que nous ne devons pas faire confiance, je l'assume, en démocratie uniquement aux responsables politiques pour fixer le cap. Il me semble assez clair que sur la question écologique, ce ne sont pas les politiciens, quels qu'ils soient d'ailleurs, même si personnellement je me suis engagée à gauche, je suis quelqu'un de gauche, et je crois plus à l'articulation entre question écologique et question sociale que stricto sensu au sens de la transformation économique. Mais je crois qu'en tout cas, il est clair que ce sont les citoyens, la société, qui doivent organiser le cap écologique. Après, la question de l'expertise qui était posée en début d'émission est passionnante, parce que, comme l'a dit Christian de Pertuis, l'expert est citoyen. Et au fond, chacun doit, quel que soit son rôle social, ressusciter en lui-même cette conscience citoyenne active et écologique, bon, premièrement. Après, sur la restriction aux libertés, c'est un point souvent abordé. Et tout à l'heure, Pierre Charbonnier parlait d'impératif écologique. Moi, j'ai tendance à dire impératif démocratique et écologique, parce que je crois profondément que si on pose un impératif écologique, et on a vu comme c'était difficile de définir l'écologie, chacun mettra l'écologie à sa porte. Et par exemple... tous ceux qui pensent à la question énergétique ne sont pas aussi honnêtes que Christian de Pertuis. Ils penseront qu'à l'énergie. tous ceux qui sont spécialistes de la question agricole ne parlons que d'agriculture. L'écologie est suffisamment complexe et diverse. C'est pour ça que, par exemple, la biodiversité est aussi complexe. C'est le règne de la complexité, beaucoup plus que l'économie, l'action de la biologie. Donc, à partir de là, articulons écologie et démocratie. Et au contraire, je voudrais quand même dire une chose, il faut arrêter de présenter l'écologie stricto sensu en termes de contraintes. Je crois que c'est aussi le retour à des libertés que nous avions oubliées. Et c'est en ce sens que la perspective historique est fondamentale et passionnante, parce qu'elle permet de se dire, mais regarde ce à quoi regarde la façon dont je profitais. Moi, j'habite à Vanves. Donc, si j'avais vécu il y a 50 ans à Vanves, j'aurais eu des fermes, des vergers, j'aurais profité de la nature. Aujourd'hui, je profite d'une ville qui est peut-être plus numérique, donc qui est qualifiée de ville du futur, sans un arbre. Donc, retrouvons aussi la liberté écologique.
Vous dites, Pierre Charbonnier, dans votre livre, qui voudrait d'une écologie autoritaire ou d'une liberté sans lendemain? On est, il reste à peine deux minutes dans l'émission, mais voilà, juste un mot sur ce thème de la liberté, son articulation, puisqu'on parle politique, son articulation avec la transition écologique.
Oui, bah, c'est vrai qu'on se retrouve encore une fois dans une forme de porte-à-faux, c'est-à-dire on est les héritiers d'une histoire à l'intérieur de laquelle, massivement, la liberté a été codée comme en fait la conquête d'une émancipation à l'égard de la nature qu'on considérait comme un ensemble de contraintes, de menaces, de limites en fait. Et donc nous nous sommes construits notre niche en poussant le plus loin de nous possible ces contraintes, ces limites et ces menaces. Alors on peut dire d'un côté qu'effectivement en lui-même ce codage de la nature comme contrainte et inexact, c'est ce que vous venez de dire, Lucille. C'est-à-dire, on peut tout à fait considérer qu'il y a une valeur en soi dans le fait de nouer avec des milieux, des liens actifs, positifs, qui sont en fait plus des appuis pour l'action que des limites à l'action. Par exemple, tous les gens qui essaient d'imaginer des systèmes de production agricole alternatifs aujourd'hui, c'est ça qu'ils nous disent, et c'est très important. Et puis, il y a de l'autre côté le fait quand même qu'il faut écouter des demandes, en fait, des demandes de prospérité, des demandes de justice, qui supposent qu'il y a un certain niveau, quand même, de décollement par rapport à des impératifs matériels qui relèvent, en fait, du besoin, de la nécessité, et même, quand même, d'une certaine manière, du confort. Hein, on peut le dire, on n'est pas obligé d'idéaliser complètement notre état passé. Et donc, il faut y répondre, mais il faut répondre... Voilà, encore une fois, de manière juste. Donc c'est vrai que peut-être l'avantage de l'écologie, pas au sens de l'écologie des partis, mais disons de la réorganisation en fait matérielle des idéaux de justice et de liberté, c'est qu'on peut être capable de dire aux gens qui sont en demande de justice, en fait, vous serez massivement bénéficiaire d'une transition des transports, de l'habitat, des systèmes énergétiques, des systèmes de production, parce que vos enfants mangeront mieux à l'école et chez vous. Ce qui est le meilleur sera aussi le moins cher. Vous passerez moins de temps dans la voiture, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a ce fond, en fait, qu'on peut dire éthique dans l'écologie qu'il faut assumer.
Merci beaucoup à tous les trois, Lucille Schmitt, Christian Pertuis. Je rappelle votre ouvrage Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience chez Debox Supérieur. Pierre Charbonnier, qu'on vient d'entendre, Abondance et liberté et une histoire environnementale des idées politiques. C'était aux éditions de La Découverte en tout début 2020. Merci à toute l'équipe du temps du débat du samedi. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Stéphane Touvenin. Merci à Seam Boutata pour sa collaboration. Les sujets dont on parlait ce soir sont définitivement dans l'air du temps. Crise du Covid, faut-il taxer les riches? Ce sera la question que posera Emmanuel Laurentin lundi avec ses invités, les économistes Gilbert Sept et Anne-Laure Delatte et Louis Morin, qui est directeur de l'Observatoire des inégalités. Mais avant cela, le prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain l'esprit public d'Émilie Aubry en direct et en public de l'espace Cardin. Ce que le Covid fait à l'autorité de l'État, et après le Covid, serons-nous devenus plus verts? Voyez les questions, on continue de les creuser sur France Culture. On a le sens de la continuité. Excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture, évidemment. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.